La dernière partie de la Grande Table, c'est à vous Raphaël Bourgois.
Merci Antoine, vous restez avec nous car on continue notre semaine spéciale consacrée à la loi El Khomri et aux transformations du travail. Après avoir entendu lundi le point de vue des économistes et s'être penché hier sur les transformations donc à l'heure du numérique, nous arrivons à l'os, à la question du droit. Car le débat qui se déroule aujourd'hui a commencé il y a quelques mois par un constat devenu peu à peu une sorte de consensus dans le débat public. Le code du travail trop volumineux et trop complexe en France serait donc un frein à l'emploi. L'ancien ministre de la Justice Robert Badinter et le juriste Antoine Lyon-Caen, qu'on ne peut pas vraiment soupçonner d'ultralibéralisme, ont ainsi proposé qu'il soit réduit à un certain nombre de grands principes et de laisser au pouvoir public et aux partenaires sociaux le soin de décliner les règles applicables aux relations du travail selon les branches et les entreprises. Sur ce sujet, comme sur ce qu'on a pu aborder ces deux derniers jours, la loi El Khomri réussit à faire des propositions et à s'attirer les critiques de ceux qui les ont inspirés, à l'instar d'Antoine Lyon-Caen, qui a vivement critiqué notamment le plafonnement des indemnités prud'homales, transformé depuis en barème indicatif. On va en parler évidemment de tout ça avec nos invités. Emmanuel Dockès, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur agrégé de droit du travail à l'université Paris-Ouest Nanterre. Vous avez co-dirigé avec Gilles Ozero la dernière édition du manuel de droit du travail chez Dalloz dans la collection des Précis. Donc si j'ai bien compris, c'est un travail difficile puisqu'il est tellement gros ce manuel de droit, ça doit vous prendre un temps infini.
C'est un gros travail, effectivement, le droit est difficile.
Vous êtes enfin le coordinateur du projet pour un autre code du travail qui compile les propositions de 19 chercheurs pour alléger donc ce code du travail dans une démarche plus protectrice des salariés. Vous êtes donc d'accord, il faut alléger ce code du travail.
Il est tout à fait possible d'alléger, de simplifier sans sacrifier les droits des salariés. C'est effectivement ce à quoi nous sommes attelés actuellement.
Et on va en discuter avec Emmanuel Barbara. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Paris et spécialiste en droit du travail. Vous dirigez le département droit social du cabinet d'avocats d'affaires Auguste et Debouzy. Et vous enseignez aussi à l'école de droit de Sciences Po Paris, à l'université Paris 1. Et vous êtes enfin membre du comité directeur de l'Institut Montaigne, qui est un think tank qu'on classe souvent du côté libéral, même.
Hélas, si d'aventure c'est une catégorie peu aimable.
C'est une catégorie du débat intellectuel.
C'est un débat riche.
Alors une première question à tous les deux. Est-ce qu'il y a un consensus donc pour réécrire le code du travail? Et est-ce que la loi El Khomri va dans le bon sens pour ça, Emmanuel Dockès?
Alors, tout d'abord, je ne suis pas un grand amateur de consensus. À chaque fois que j'entends ce mot-là, je m'inquiète. Je suis de ceux qui pensent que le débat démocratique n'est pas construit sur le consensus, mais sur la diversité.
Et le droit, il se fait pas dans le consensus non plus.
Non, c'est pas particulièrement Badinter. C'est en général. C'est une position politique générale. L'idée de consensus, c'est une chose qui n'est pas dans la démocratie. La démocratie, c'est le pluralisme et donc la diversité. Est-ce que le code du travail est trop volumineux, trop compliqué? Un certain accord a lieu. Effectivement, c'est une horreur. Il est extrêmement complexe, extrêmement difficile. Et là, de ce point de vue-là, je pense qu'on peut tous tomber d'accord sur la nécessité de le simplifier. En revanche, il y a une distance entre le discours et la réalité qui est abyssal. Vous avez un discours qui est il faut simplifier, ce qui est un discours qui est parfaitement convaincant. Et vous avez une loi El Khomri qui ne simplifie absolument rien, c'est presque une escroquerie intellectuelle. Le texte, par exemple, on a essayé de refondre entièrement le droit du temps de travail. Le texte qui remplace le texte actuel, donc cette refonte complète du droit du temps de travail, qui aurait été l'occasion d'une certaine simplification, le texte nouveau est 27% plus épais que le texte ancien. Donc on nous dit il faut réduire le texte, il faut simplifier le texte, et on nous gonfle le texte avec des complexités supplémentaires et avec une très forte charge idéologique qui imprime le même plan partout, même quand ça marche pas, avec un résultat qui est une complexité toujours accrue, toujours plus épouvantable et qui rend les choses encore plus illisibles.
Emmanuel Barbara, même constat?
Alors sur le constat, vous n'aimez pas le consensus, hélas, nous allons en vivre un. Nous sommes d'accord, le code est devenu... Non, ça ne va pas durer. Le code est illisible, impraticable et surtout ne correspond plus. Enfin moi, le point qui me paraît le plus prégnant, c'est que son caractère obèse, provenant du caractère prolixe et prolifique de production de lois sur les 15 dernières années, en fait atteste d'un sujet qui a conduit à finalement opérer par autant de rustines, pour s'assurer que ce code du travail fonctionne encore dans la promesse initiale qui avait été de conférer des protections à ses bénéficiaires.
Justement, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 15 dernières années où on a subitement vu grossir le code du travail? Pourquoi?
Comment ça ? Quel était le processus ?
Je pense qu'il y a de nombreuses raisons à cela, mais il y a d'abord une espèce de passion française pour la loi, cette idée folle que la loi peut tout. Et donc forcément, à force de distorsion ou de dérapage, compte tenu justement du modèle économique dans lequel la nation, enfin en tout cas la France évolue, qui a terriblement changé depuis déjà l'an 2000, qui a fait que fondamentalement il a fallu courir après, si je puis dire d'une certaine façon, pour s'assurer que le système n'échappait pas à ceux qui voulaient le voir perpétuer de la sorte. Et donc, au bout du compte, le problème que l'on a et sur lequel on peut peut-être encore être d'accord, c'est que le Code du travail ne parvient plus à donner des protections parce qu'on n'est plus d'accord sur ce que veut dire le mot protection. Protéger à quoi, contre qui et pourquoi faire. Et donc la distorsion a fait qu'on a produit des lois avec toujours l'idée qu'il fallait davantage de processus et de rites, finalement, à la place, j'allais dire, d'un argument davantage téléologique, c'est-à-dire de finalité et totale. On est dans un droit rituel, un droit processuel et qui n'a pour effet que de tendre les parties concernées.
Avant de rentrer un peu plus en détail justement dans cette question du droit, j'aimerais vous entendre encore sur un autre prémisse de cette discussion, qui est la question un peu avancée par le gouvernement et par beaucoup des commentateurs, qui est de dire qu'on peut faire du droit du travail une sorte d'outil de politique économique. C'est-à-dire on dit, voilà, le droit du travail, il est trop complexe et donc ça empêche les emplois. Et est-ce que ça, c'est une bonne démarche, c'est une bonne façon de procéder, Emmanuel Decaisse ?
Survaloriser l'effet de la loi est une erreur que les juristes ne commettent pas. Nous savons que le droit a ses effets, mais que ce n'est pas en tapant sur des baguettes magiques législatives qu'on va créer une foule d'emplois. L'emploi est quelque chose qui dépend principalement de l'économie. La complexité du droit est-elle destructrice d'emplois ? Ça non plus. La complexité du droit est juste quelque chose de nocif. Il faut que le droit soit accessible. Mais est-ce que rendre le droit plus simple va créer beaucoup d'emplois ? Certainement pas. C'est une autre histoire. En revanche, la complexité du droit est un problème démocratique. Parce que lorsque le droit est trop complexe, les gens ne peuvent pas le connaître. Et s'ils ne peuvent pas le connaître, ils ne peuvent pas le respecter pour les uns, le réclamer pour les autres. Et donc c'est un problème. Mais ce n'est pas comme ça qu'on créera des emplois.
Oui, il y a aussi un effet de distorsion qui a beaucoup été pointé du doigt entre des grandes sociétés qui peuvent avoir, par exemple, recours à des avocats, à des conseillers juridiques et des PME, des TPE qui, elles, souvent, parfois de bonne foi, se retrouvent piégées par le droit. Emmanuel Decaisse, c'est quelque chose qui est très fréquent aujourd'hui.
Alors,
trop fréquent.
On rentre dans une particularité du droit français. On a parlé de ce gonflement. Ce gonflement, en fait, c'est un gonflement de complexité qui a été fait presque à dessein. En réalité, ce sont presque seulement des réformes qui vont en faveur du patronat, qui ont fait gonfler le code, en multipliant un maximum d'exceptions et de petits cas pratiques et de petites choses très 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 complexes qui permettent de ne plus appliquer un certain nombre de choses comme les majorations d'heures supplémentaires. Et c'est cette complexité-là dans laquelle nous avons ici quelqu'un qui peut s'y retrouver très facilement, dans laquelle les grands services juridiques vont arriver à se faufiler pour empêcher l'application des protections. Cependant que les PME, elles, vont être obligées d'appliquer toutes les protections parce qu'elles sont incapables de se faufiler dans cette complexité qui a été faite à dessein pour empêcher l'application des protections sociales élémentaires.
Alors, et c'est pourquoi, si je peux
dans les grandes entreprises, alors.
Dans les grandes entreprises, vous avez finalement, dans certains cas, moins de protection. Et c'est pourquoi, justement, en simplifiant le droit, c'est ce que nous faisons, non seulement nous ne détruisons pas des protections, mais bien au contraire, en enlevant tout ce fatras de complexité qui permet le faufilement, en quelque sorte, des organisations de grandes entreprises, en les supprimant, vous augmenter le stock de droits disponibles tout en créant quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus simple et de beaucoup plus égal aussi entre les petites entreprises et les grandes entreprises qui seront soumises ainsi un peu aux mêmes règles.
Ça y est, on a touché le point de désaccord. Un premier, Emmanuel Barbara, sur un droit trop complexe au profit exclusif des patrons, nous dit Emmanuel Decaisse, vous qui conseillez, je crois, notamment du côté patronal.
Oui, il faut bien que quelqu'un s'y colle, si je puis dire. Là,
c'est pour ça, on n'a pas c'est pour ça qu'Emmanuel Decaisse
la chance d'être du bon côté du manche.
Que vous y retrouviez dans ce droit si complexe.
Non, je ne m'y retrouve pas, hélas, justement. Si moi-même, je ne m'y retrouve pas, vous vous rendez compte. J'ai 35 collaborateurs avec moi qui nous acharnons à essayer de bien comprendre le produit dont on parle, chaque jour qui devient effectivement plus complexe.
Et juste une toute petite question, oui. Est-ce que c'est différent pour vos collègues pénalistes, par exemple, ou pour vos collègues, je sais pas, le droit du commerce, les autres
types de droits ? Je pense que la société est de plus en plus sophistiquée, que tous les codes, l'urbanisme, je ne sais pas quoi, le droit, tous les droits ont tendance à s'amplifier. Hein. Mais le nôtre, si je puis le qualifier comme tel, et j'aime bien avoir cette relation affective avec lui, le nôtre associé de particulier qu'il traite de l'intime et qu'il traite de l'essentiel des gens, de l'essence des gens. Donc forcément, il a une dimension plus, effectivement, plus
Est-ce symbolique. Est-ce que c'est le patronat qui a fait grossir le droit du travail, comme le dit Emmanuel Dockès?
Oui, alors là, justement, j'allais en venir à je suis saisi par... Enfin, je suis ébobi, quoi, littéralement, que l'on puisse dire sans défaillir et assez... et de façon aussi, j'allais dire...
Vous voulez des exemples, peut-être?
Péremptoire.
Alors, on va laisser d'abord Emmanuel Barbara développer
oui,
et vous donnerai des
de placer, puisque j'ai l'occasion de le dire, alors j'aimerais quand même essayer de placer le fait que dire que le droit du travail français est un droit qui n'est pas protecteur des salariés, qui n'a pas en tout cas, qui n'affiche pas cette ambition-là, alors là, j'ai les bras qui m'en tombent littéralement. Vous avez dit que le droit n'était pas protecteur. On comprend dans ce que
Absolument
vous dites
pas.
Que...
Non, j'ai dit que la complexité...
Alors on va vous laisser préciser votre pensée, comme ça Emmanuel Barbara pourra
J'ai répondre. Dit que la complexité, qui date en fait pas depuis 15 ans, c'est une complexité qui monte depuis la fin des années 1980, c'est une complexité qui principalement vient d'une multiplication d'exceptions et de cas de dérogabilité qui ont été ajoutés au sein du Code
et
du travail.
Et qui sont en faveur exclusive, selon vous, du patronat.
Dérogabilité aux principes, lesquels principes sont protecteurs des salariés. Les principes demeurent, on a toujours ces protections, mais évidemment les dérogations, plus elles sont nombreuses, plus elles sont favorables. Je vous donne un exemple. Le travail le dimanche. Lorsque vous prohibez le travail le dimanche, ça vous fait une ligne. Si vous faites une liste d'exceptions au travail le dimanche, plus cette liste s'allonge et plus on a des dérogations possibles qui sont en faveur de ceux qui veulent faire travailler les gens le dimanche. Donc je pense que moi, qu'en deux, trois pages, on fait le tour des exceptions et actuellement, il y a plus de 30 pages d'exceptions.
On voit comment vous allez simplifier le droit du travail.
Mais oui, ben voilà.
Emmanuel Barbara.
Vous avez donné la réponse. Simplifier le droit du travail consiste à donner une règle unique, uniforme, et surtout sans dérogation possible. Or, la vérité vraie, la réalité économique, et c'est ça le sujet, c'est que le droit du travail n'est pas un droit hors sol. Mais vous avez parlé du travail le dimanche, je ne pensais pas qu'on y viendrait. Mais vous voyez, vous venez de dire dans le même souffle que, dans le fond, il n'est pas convenable d'imaginer même que l'on puisse travailler le dimanche. Déjà qu'on puisse. Et puis pire, qu'on puisse avoir envie de travailler le dimanche. C'est-à-dire qu'on est bien d'accord que nous avons affaire ici à une situation dans laquelle il y a la vérité vraie, et à côté de la vérité vraie, il y a les dérogations que, hélas, on a fini par indiquer, mais on les a indiqués pour s'adapter à ce monde économique qui bouge, qui change, qui n'a pas la même tête que les années 80 dont vous parliez, justement. Vous voyez
Emmanuel Dockès.
Chère madame, nous venons justement de réécrire entièrement ce chapitre sur le droit du temps de travail. Nous ne sommes pas de ceux...
Nous, on va quand même, on va quand même rappeler, c'est le groupe avec lequel vous travaillez pour réformer le droit du travail, pour un autre code du travail. Voilà, 19 chercheurs.
Donc, nous n'avons pas supprimé les exceptions au principe de non-travail le dimanche. Nous en avons écrit 3 pages. Je vous assure qu'en 3 pages d'exceptions, vous faites une liste qui est assez abondante d'exceptions. Actuellement, il y a 30 pages d'exceptions qui sont à la fois redondantes, qui se recoupent les unes les autres, qui sont dans certains cas complètement inutiles, qui sont un maquis dans lequel vous n'avez même jamais lu en entier, tellement c'est compliqué. Je vous assure que lorsque vous aurez lu nos 3 pages d'exceptions, vous ne direz pas que nous sommes des gens qui ne veulent faire aucune exception. Bien sûr que si, il en faut, nous en avons. Je vous assure qu'en 3 pages, on fait le tour. Ça suffit largement et c'est ça la simplification.
France Culture, la grande table, Raphaël Bourgois.
France Culture, il est 13h06 et on parle du droit du travail dans cette semaine spéciale consacrée à la loi El Khomri avec Emmanuel Dockès, professeur agrégé de droit du travail à l'Université Paris-Ouest-Nanterre, avec Emmanuel Barbara qui est avocat au barreau de Paris et spécialiste donc de ces questions. Et ils ne sont pas d'accord, enfin, sur les prémices finalement, c'est-à-dire à quoi sert le droit du travail et est-ce qu'on peut le réformer sans toucher au droit des salaires. J'ai l'impression que ce qu'Emmanuel Dockès nous dit, les transformations que vous proposez ne vont pas dans le sens de la protection des salariés et que vous, Emmanuel Barbara, vous nous dites, oui, mais le droit du travail doit aussi protéger les libertés des salariés et protéger aussi les patrons d'une certaine mesure. Il n'est pas à l'usage exclusif des salariés, Emmanuel Barbara.
Je crois qu'on a affaire ici à un sujet qui consiste à se demander ce qu'il faut en effet protéger. Et contre quoi faut-il protéger les personnes? Et dans le fond, à quoi sert le code du travail ou le droit du travail de manière générale? Il sert évidemment aux deux parties. Parce que ça n'a pas de sens d'imaginer qu'une seule des parties, même si on l'entend souvent dire que le droit du travail n'est fait que de droits et de protections accordés aux salariés. Point. C'est pas vrai, on est deux, qu'on le veuille ou non, dans ce drame tragique qui concerne les personnes. Il y a donc deux parties. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que protéger comme il convient les salariés aujourd'hui, c'est probablement prendre en considération un fait très important qui est que, qu'on le regrette ou non, mais le contrat de travail à durée indéterminée, entendu comme le contrat éternel car telle était la promesse, je rappelle, de la construction du droit du travail post-Seconde Guerre mondiale, c'était la promesse. Et la promesse était une sorte de compromis dans lequel on abandonnait une partie de ses libertés, le lien de subordination, en contrepartie de sécurité tout au long du contrat, jusqu'à la retraite, etc. Et ça, c'est d'ailleurs la tête du Code du travail initial. Et la raison pour laquelle il ne tient plus la rampe, c'est que cette situation que je décris a volé en éclats. Elle a volé en éclats. Le monde économique est ouvert, multipolaire, global, mondialisé, etc. On peut le regretter. Mais il n'empêche qu'il faut quand même jouer la partie, sauf à mourir sur pied. Et donc la question est comment protéger les personnes et quel est le type de deal nouveau que l'on pourrait proposer aux personnes. C'est un deal dans lequel... C'est de pouvoir toujours travailler. C'est-à-dire de ne pas s'étioler au même endroit, d'abord parce qu'on ne pourra plus offrir cette promesse jusqu'à l'éternité, on ne fait plus le même métier toute une vie, mais en outre de pouvoir poursuivre ailleurs et autrement. Et toute la question qui est posée ici, c'est que du fait de l'automatisation de la société, qui est un phénomène majeur à côté de la mondialisation, c'est que plus ça va, moins on a besoin de personnes physiques pour produire de la richesse. Et donc c'est une vraie question, quel est le statut, qu'est-ce que travailler veut dire, et est-ce qu'il faut mettre un terme ou pas à l'hégémonie du salariat et donc valoriser d'autres formes de travail.
Mais est-ce qu'on ne glisse pas, avec ce que vous nous dites, Emmanuel Barbara, du droit du travail au droit au travail? Ce ne serait pas exactement la même chose?
Oui, mais moi je prétends que le droit du travail a désormais moins de place, qu'on le veuille ou non, que dans le temps.
Ah bah Emmanuel Decaisse.
Bon, nous sommes là face à quelque chose d'assez effrayant pour moi. Vous critiquez des choses qui n'existent pas. Vous critiquez l'emploi à vie, ça n'existe pas. Personne n'est pour l'emploi à vie, fort heureusement.
Oui, on rappelait hier qu'un CDI moyen, c'est 3 ans, je crois.
Oui,
on reste en CDI en moyenne 3 ans.
Oui, il y a 600 000 licenciements par an, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, qui existe. D'ailleurs, vous en pratiquez très certainement beaucoup dans votre activité. Dire que c'est impossible et qu'on est dans l'emploi à vie, c'est... Donc vous critiquez ça et vous en tirez ensuite des conclusions. Des conclusions, par exemple, de soutien à la loi El Khomri, dont on n'a toujours pas parlé, mais qui contient un certain nombre de choses qui sont ahurissantes. Donc vous dites, nous sommes contre l'emploi à vie, et donc nous sommes en faveur à l'absence de nécessité de motiver les licenciements économiques. Parce qu'en fait, la loi El Khomri revient exactement à ça.
De quelle façon? Parce que ce n'est pas apparu beaucoup, cette critique de la loi El Khomri.
Bon, vous avez toute une série de méthodes qui sont prévues par la loi El Khomri, de licenciements qui sont très faciles. C'est même pas la peine d'être un expert comptable, je vous assure, pour rentrer dans les clous qui sont prévus par la loi El Khomri. N'importe quel comptable, même pas expert, même assez mauvais, vous fera rentrer dans les clous. Par exemple, il est dit que dans la loi El Khomri, que si vous diminuez la trésorerie, vous avez un motif de licenciement économique. Mais si vous voulez diminuer la trésorerie, vous n'avez qu'à vous acheter un siège social ou une voiture. Vous diminuez la trésorerie. Et à ce moment-là, hop, vous êtes dans la difficulté économique. C'est une blague. Et cette blague-là est encore plus évidente lorsqu'on vous dit qu'on ne peut pas aller chercher ce qui se passe à l'étranger. Si vous êtes un groupe international, vous mettez même un tout petit groupe international, vous mettez une petite filiale en Allemagne. Vous lui vendez les produits de la filiale française, vous lui vendez un peu cher, ce qui met la filiale française en difficulté, c'est-à-dire simplement, par exemple, elle fera un petit déficit, ou elle aura un chiffre d'affaires qui baisse, ou que sais-je encore, et tout ça est ipso facto automatiquement considéré comme un licenciement économique.
Il ne faut pas faciliter le licenciement économique, c'est ça que vous dites. Alors, ça ne serait pas une idée, ça, de le faciliter pour que, précisément, parce que c'est quand même ça qui est derrière, précisément, pour pouvoir embaucher, parce qu'on n'aura pas peur de devoir garder le salarié.
Un grand débat est de dire le licenciement économique, c'est quelque chose de terriblement difficile, et ça empêche les gens d'embaucher. Alors d'abord, c'est faux. Le licenciement économique n'est pas si difficile que ça. Vous avez 600 000 licenciements économiques par an. Et actuellement, tout ce qu'on demande à un licenciement économique, c'est de prouver l'existence d'une cause réelle et sérieuse. D'ailleurs, les recours devant les tribunaux et devant les conseils de prud'hommes en particulier et devant les tribunaux administratifs en termes de licenciement économique sont en chute libre parce que l'accès au juge est de plus en plus difficile. En réalité, c'est pas si difficile de licencier pour motif économique, je vous assure. Tout ce qu'on demande, c'est une cause réelle et sérieuse. Une cause réelle et sérieuse, ça veut dire réel, faut pas mentir, vous dites la vérité, et sérieux, il faut pas que ce soit n'importe quoi. Cette motivation-là, c'est quelque chose d'absolument basique qui est
Et elle disparaît, selon vous, de la nouvelle loi El Khomri?
Bien évidemment. Ces méthodes dans lesquelles il suffit de démontrer une baisse de chiffre d'affaires, une baisse de ceci, vous avez plein de cases dans lesquelles vous pouvez rentrer. Et si vous rentrez dans une de ces cases, automatiquement, votre licenciement a un motif économique. Le gouvernement a rajouté un petit truc. Il a dit, si c'est vraiment artificiel, à ce moment-là, le juge va pouvoir intervenir.
À quoi on le verra, là?
Mais ceci, je vous assure, est quelque chose de complètement creux. Si vous dites que c'est artificiel, d'abord, il faudra prouver que ce soit artificiel. Et ensuite, le texte est encore plus précis. Il faut prouver, un, que ce soit artificiel, et deux, que cet artifice a été construit pour permettre des licenciements économiques. Ces deux preuves-là sont presque impossibles à rapporter devant les conseils de prud'hommes, ce qui veut dire qu'en pratique, l'obligation de motiver les licenciements va sauter.
Donc ça veut dire pour vous qu'on autorise le licenciement sans contrainte et sans règle avec cette nouvelle loi El Khomri, pour être clair.
Mais très clairement, l'objectif...
Et donc ça serait peut-être pas forcément une mauvaise chose non plus.
Alors c'est une question de décence. Lorsque vous licenciez quelqu'un, je vous assure, lui exiger que l'on demande pourquoi est-ce que vous le licenciez. C'est une chose qui est absolument humainement nécessaire. C'est pas pour rien qu'on l'a mis dans les traités internationaux. Nous touchons au socle du droit du travail. Lorsque vous licenciez quelqu'un, c'est quelque chose de grave. On vous demande de dire pourquoi vous licenciez et d'avoir une raison, une bonne raison, qui n'est pas si difficile à démontrer. Je vous assure, la jurisprudence est très ouverte.
Emmanuel Barbara, vous aurez un temps assez long pour répondre à cette longue intervention d'Emmanuel Dockès qui donc nous explique que la loi El Khomri permet aujourd'hui un licenciement sans motif finalement.
Oui, enfin si c'était le cas, ça serait le bonheur de la ménagère de l'entreprise, de ce fétide acteur de cette pièce, voyons. On est vraiment loin d'être là, et par des dérapages contrôlés dans une dialectique au demeurant fort sympathique, vous êtes passé de la contestation de la notion du contrat de travail à durée indéterminée comme étant celui qui est dans le temps long, avec tout ce que cela impliquait, pour finalement tomber dans la loi El Khomri et pour dire qu'une baisse de, je cite, de trésorerie serait de nature à susciter et à valider le licenciement. C'est pas de trésorerie déjà. Et c'est vrai que la comptabilité, ça nécessite de regarder vraiment les termes. Le chiffre d'affaires, c'est pas la trésorerie.
Non, il y a le chiffre d'affaires et la trésorerie,
oui,
madame.
Mais
lisez la loi.
J'entends bien, mais justement, comme il s'agit de notions comptables et comme on sait qu'il y a un autre intervenant dont on n'a pas beaucoup parlé qui s'appelle le juge, et qui n'est pas neutre dans cette affaire et qui, jusqu'à présent et jusqu'à la dernière fois que j'ai regardé, regarde assez millimétriquement les données justement comptables, économiques, etc. Et plus ça va, plus les débats deviennent scientifiques et économiques. Bon, donc le premier point, c'est d'évoquer le principe que du coup, si on évoque la baisse du chiffre d'affaires et en même temps de la trésorerie, eh bien, au bout du compte, on a une absence de motivation d'un licenciement pour motif économique. Le gap est assez large, ce d'autant qu'il va falloir, et comme d'habitude, et vous le savez bien, la jurisprudence française en matière de licenciement pour motif économique n'est pas des plus libérales, pour prendre un terme sur lequel...
Vous connaissez
on
la récente
je connais un certain nombre de jurisprudences, et j'en pratique moi-même, puisque j'en produis aussi, et j'essaie de, moi aussi d'en produire, et donc je peux vous dire à quel point, s'il y a un sujet sur lequel on est bien tranquille, c'est que les juges ne faciliteront pas au point de dire amen à n'importe quelle modification du contrat. Donc la loi El Khomri, elle vient juste dire une chose, et en réalité, on est bien d'accord qu'il n'y a pas lieu d'en faire une montée sur les grands chevaux ou de considérer qu'on est à la veille du grand soir, n'est-ce pas ? C'est qu'on en est finalement dans la prise en compte, la non-remise en cause de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de licenciement pour motif économique. Simplement, on désigne une ou deux indications un peu plus précises pour que les entreprises sachent à peu près de quoi on parle lorsque l'on parle soit de sauvegarde de compétitivité, soit de difficultés économiques. Donc, on donne quelques indications un peu plus précises. Mais sinon, ce sont des critères qui sont parfaitement pris en compte d'ores et déjà. Donc, on est vraiment loin de s'affranchir de l'OIT et du reste.
Il y a quand même un point que soulève Emmanuel Dockès et qui est beaucoup venu dans le débat. C'est la possibilité, notamment en prenant en compte, par exemple, que le chiffre d'affaires en France d'une société qui est une société internationale, de par des jeux d'écriture comptable, de parvenir à licencier plus facilement en France, sans prendre en compte l'état de santé total, on va dire, de l'entreprise. C'est quelque chose qui est une réalité sur laquelle une avocate comme vous pourrait jouer, Emmanuel Barbara ?
Oh ben, c'est pas gentil, on a l'impression que nous serions qu'une bande de complices dans une affaire.
Non, mais votre rôle est de conseiller au mieux vos clients.
Oui, mais conseiller, ça veut pas dire s'affranchir de la loi. Enfin, je le précise
il ne s'agit pas de ces possibilités de fraude.
D'abord, vous venez de décrire précisément le cas visé par l'artificialité, parce que vous m'avez précisément interrogé sur le point de savoir si par des jeux d'écriture avec une intention qui consisterait à aggraver la situation de la France, enfin, je prends la filiale française, et bien dès lors, je trouvais ma victime toute désignée. Ça s'appelle l'artificialité en l'espèce, et tel que vous me le posez, la loi
El Khomri...
Le juge le voit. Et puis même s'il n'avait pas mis le mot artificialité, il se trouve qu'aujourd'hui, au titre de ce qu'on appelle la responsabilité délictuelle, il avait tout à fait l'attitude pour le faire, et il le fait d'ores et déjà, si vous voulez, il n'y a quand même rien de neuf sous le soleil. Maintenant, c'est un sujet suffisamment important pour souligner que aujourd'hui, à la minute où on se parle, on est obligé de regarder la pertinence d'un licenciement pour motif économique en France en tenant compte du secteur d'activité mondial, le cas échéant mondial, donc le secteur d'activité pas européen, pas permettant de comparer des états du même genre, non, mondial. Donc vous pouvez mettre dans l'escarcelle du secteur d'activité des tas de pays très 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 différents, et donc à l'heure actuelle, vous pourriez avoir une entreprise française qui est dans les difficultés économiques substantielles, mais dès lors que tous les autres pays du monde, ou la plupart d'entre eux, ou la somme arithmétique des résultats des autres pays du monde serait favorable, alors la France ne devrait pas supporter de restructuration. C'est ça la règle d'aujourd'hui. Donc la question que je pose simplement, elle est d'ordre moral également, c'est à quel titre doit-on organiser une mutualisation en faveur de la France, dès lors que les autres pays contribuent à la production de performances et de valeurs, sauf la France, mais du fait que la France appartiendrait à un secteur d'activité, j'allais dire, qui globalement est favorable, alors cela épargnerait la nécessité de restructurer la France. C'est là la situation dont on est aujourd'hui, dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et qui n'est pas nécessairement très juste.
Emmanuel Decaisse, je crois que vous êtes
d'accord. Oui, tout ça c'est du blabla. En réalité, c'est très facile.
Ça a l'air très réel quand même. Excusez-moi, mais
non, mais ce qui est du blabla, c'est la complexité de la chose. C'est-à-dire que ce qui est extrêmement simple, c'est lorsque vous avez une filiale française, si vous voulez la mettre légèrement en déficit, sans qu'on puisse prouver l'artificialité, et que vous êtes dans un groupe international, c'est à la portée de n'importe qui. Et la preuve de l'artificialité est une chose presque impossible. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe absolument continuellement. Simplement, jusqu'ici, les juges pouvaient aller jeter un petit coup d'œil à ce qui se passer à l'extérieur pour aller regarder s'il y avait quelque chose d'un peu grave, d'un peu grossier, c'est quelque chose de visible qui pourrait être condamné. Et donc en pratique, c'est très difficile. Et cette vérification-là n'est plus possible dans le texte actuellement. C'est-à-dire qu'automatiquement, on dira non, vous n'avez pas le droit d'aller regarder les comptes du groupe, vous devez regarder seulement ce qui se passe dans la filière. Et donc ça, c'est vraiment totalement la porte ouverte à n'importe quoi.
Peut-être on peut peut-être réélargir un peu la perspective, oui, parce que ce texte, demain, il arrive en Conseil des ministres.
Oui, bon, il y a beaucoup d'autres choses dedans.
Emmanuel Decaisse. Alors vous dites, vous, c'est un texte prétentieux, creux, qui abaisse les droits et les protections des travailleurs, globalement. Comment est-ce qu'un texte peut être creux et abaisser les protections des travailleurs?
Bon, vous faites de la sémantique.
Non,
vous avez
pas
le droit.
Mais vous avez le droit. C'est une vraie question.
Non, c'est un texte qui a du contenu, c'est-à-dire qu'il n'est pas creux en ce sens-là. Il a véritablement du contenu. On pourrait prendre des tas d'exemples. Mais ce sont des tas d'exemples qui sont d'ailleurs assez peu présents dans le débat. Notamment, vous avez des tas de petits garde-fous qui restent, il n'y en a plus beaucoup, hein, contre la flexibilité, contre la possibilité des employeurs de s'emparer du temps libre des salariés. Actuellement, la modification d'horaire, en principe, est un droit de l'employeur qui appartient à son pouvoir et le salarié doit se soumettre à ça. Il reste encore quelques micro-garde-fous. Par exemple, si vous voulez modifier la date de prise des congés des salariés, vous devez prévenir un mois à l'avance. C'est pour que les gens aient le temps de louer quelque chose, de prendre un billet d'avion, que sais-je encore. Ça, c'est quelque chose qui saute. On pourra changer la date de vos congés moins d'un mois à l'avance. Ou alors, actuellement, si on veut vous mettre une période d'astreinte, par exemple, on dit ce dimanche vous serez d'astreinte, eh bien, on doit vous prévenir à l'avance. On doit vous prévenir combien de temps? 15 jours à l'avance. Ça saute. On pourra vous prévenir quelques jours à l'avance seulement que vous êtes en période d'astreinte. Actuellement, on a des variations qui sont possibles sur l'année avec une prévision simplement de 3, 4, 2, 3 jours, mais simplement sur l'année. Et vos heures supplémentaires sont payées simplement par an.
C'est donc c'est une accumulation de petites choses comme ça, vous dites, c'est dans cette loi, ou qu'est-ce qu'il y a d'essentiel fondamentalement?
Vous avez des dizaines de petites mesures qui sont comme ça, je dirais franchement, dégoûtantes. Une autre. Très simplement, on prévoit une modulation sur 3 ans du temps de travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos heures supplémentaires ne pourront être payées que tous les 3 ans. Vous voyez, les entreprises actuellement, elles rouspètent en disant « Ah, on nous fait payer à 60 jours, on nous fait payer à 120 jours. » Enfin, on a donc des délais de paiement qui sont très très longs. Et au même moment, on leur accorde un droit de ne payer les heures supplémentaires que tous les 3 ans, et encore en supposant un salarié qui sera capable de faire la comptabilité de ses heures sur 3 ans, en marquant tout sur son petit carnet. En pratique, c'est rigoureusement impossible. C'est la porte ouverte au non-paiement des heures supplémentaires. En réalité, on ouvre des tas de portes pour ne pas payer les heures supplémentaires, pour ne pas justifier les licenciements, et on interdit aux salariés de refuser quelques modifications de son emploi du temps qu'il soit, avec toutes sortes de dispositions autoritaires.
On rogne sur les détails, mais il n'y a pas de problème de principe, selon vous, dans ce texte.
Mais les principes et les détails, c'est exactement comme ça que ça marche. Les détails sont les principes. Lorsque vous reniez les principes, vous détruisez les principes. Donc actuellement, nous n'avons presque plus rien de principe, comme par exemple l'idée selon laquelle on a un temps libre. Ce principe selon lequel on a un temps libre est presque en train de disparaître, puisque tous les temps sont susceptibles d'être préemptés par l'employeur. On a de la jurisprudence dans laquelle, si l'employeur peut vous téléphoner jour et nuit, vous n'êtes quand même pas d'astreinte. Vous n'êtes quand même, vous rendez pas compte à quel point notre société dérive vers une forme d'autoritarisme brutal que permet, de façon parfois caricaturale, cette avancée de la loi El Khomri.
Emmanuel Barbara.
Oui, alors là, moi, je suis fascinée par cette manière de procéder par induction et par surcroît de surfer sur l'anxiété légendaire des Français au travail. Donc forcément, on prend, et vous le dites fort bien, le plus petit détail pour en faire la grosse loupe. Pardon, mais c'est pas tout à fait
juste
comme
pour qu'on soit, parce juste que pour qu'on soit bien tous d'accord, les détails qu'évoque Emmanuel Decaisse, notamment sur la question de l'astreinte ou des congés, c'est bien dans la loi El Khomri.
Alors attendez, pardon du petit bémol que je vais immédiatement donné dans le débat, c'est que tout ça quand même nécessite vaguement de se mettre d'accord. C'est ce qu'on appelle la négociation collective. Alors je ne sais pas si vous avez une aversion pour le débat, enfin la négociation et le dialogue social, mais je veux dire tout ce que dont on est en train de parler est normalement visé et doit donner lieu à des négociations ad hoc sur les sujets en effet sur lesquels on ouvre des latitudes. Je rappelle que le fait générateur de cette loi dite El Khomri était celle qui consistait à dire, dans le fond, on va réagencer le code du travail en ayant des principes fondamentaux, l'ordre public, etc. Puis après ça, les domaines dans lesquels on peut négocier utilement. Donc négocier, ça veut dire qu'a priori, sauf à avoir une défiance absolue ou considérer qu'on a affaire qu'à des incapables majeurs, on peut négocier sur un certain nombre de secteurs, y compris donc le temps de travail. Entre parenthèses, on peut s'interroger de la pertinence qu'il y avait à aller ouvrir la boîte de Pandore là tout de suite sur le temps de travail immédiatement dans le cadre de cette réflexion gigantesque du code du travail. Et puis après, une dernière partie sur le droit supplétif, ce qui s'applique faute d'accord. Hein. Donc l'idée, c'est quand même que tout le système propre à mon entreprise, à cette entreprise, à celle-ci, etc., nécessite le recours à la négociation collective. C'est ce dont on parle. Vous le niez totalement, vous dites que finalement tout ça est à la main de l'employeur, unilatéral, etc. C'est pas tout à fait exact, c'est comme pour les délais de prévenance. La loi est tellement mal fichue, celle d'aujourd'hui, qu'il y a tellement de cas de figure qu'il y a des délais de prévenance, en effet, qui varient de 3 à 7 jours, et en fonction, encore une fois, sans parler des accords. Donc, forcément, on peut avoir une approche réductrice telle que vous le faites, et je regrette simplement qu'il n'y ait pas plus de nuances. Le cauchemar que vous décrivez est un cauchemar, j'allais dire, potentiel, mais heureusement, en embuscade, nous avons les organisations syndicales qui doivent, jusqu'à nouvel ordre, faire leur boulot.
Oui, il me semblait que la dernière fois... Si c'est dans le cadre de l'entreprise, peut-être moins facile qu'au niveau de la branche ou de la fédération.
Oui, qui est un autre aspect de la loi El Khomri soulevé par Antoine.
Vous parlez de cauchemar potentiel, et vous avez bien raison. Il suffit qu'un cauchemar potentiel soit parfois réalisé pour que ce soit un problème. La négociation collective, que les choses soient très claires, nous sommes tous favorables à la négociation collective. Encore une fois, cette espèce de caricature selon laquelle les uns seraient pour, les autres seraient contre, n'a aucun sens. Je suis véritablement un grand amateur de la négociation collective, qui est quelque chose d'absolument précieux. Simplement, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est en train de dire que la négociation d'entreprise, qui est une très bonne chose, devrait pouvoir être la règle, l'unique règle finalement, qui va remplacer à la fois la loi et la négociation de branche. Nous ne sommes pas du tout dans cette posture-là. Nous pensons que chaque niveau de réglementation a son utilité, y compris le niveau international, le niveau européen, le niveau national, et le niveau de la branche, qui est un niveau absolument essentiel pour égaliser les conditions de la concurrence dans une branche d'activité complète. Donc, à force de tout passer dans l'entreprise, vous avez des résultats qui sont de concurrence au niveau des entreprises, sur les droits sociaux, vous ouvrez toute la porte du dumping social et vous risquez des destructions qui sont extrêmement graves. Actuellement, les protections qui sont prévues par la branche sont de plus en plus susceptibles d'être détruites par convention d'entreprise, et la loi El Khomri ouvre des portes gigantesques de ce point de vue-là.
Alors, j'ai bien compris qu'il ne s'agissait pas de chercher un consensus pour cette fin d'émission entre vous deux. Malgré tout, moi, ce qui me semble ressortir de votre discussion, c'est que on retrouve un vieux débat un peu entre la lettre de la loi et l'usage de la loi. Vous, Emmanuel Decaisse, vous êtes proche de la lettre. Il faut qu'elle le droit du travail, le code du travail doit prévoir en quelque sorte un peu toutes les. Vous allez me dire non, mais vous allez m'expliquer, doit prévoir toutes les potentialités contenues dans une loi, alors que Emmanuel Barbara nous dit il y a une pratique quand même, il y a des gens qui pratiquent cette loi.
Non, pas du tout. Je pense qu'il faut un socle de règles communes. Je pense que les 5 semaines de congés payés, c'est bien si elles s'appliquent partout. Je pense que ce socle de règles communes ne signifie aucunement qu'il ne faut pas aussi prévoir des domaines d'adaptation, des domaines d'organisation au niveau de l'entreprise, au niveau de la branche. Il faut qu'il y ait des adaptations possibles. Ce n'est pas parce que vous défendez une règle que vous refusez les autres. Ce qui est scandaleux dans ce qui se passe actuellement, c'est qu'on considère que la règle dans l'entreprise doit pouvoir tout détruire. Et ça, c'est extrêmement dangereux.
Emmanuel Barbara.
Je dirais simplement que la loi, et en général trop de lois, tue la confiance. Donc c'est très simple. C'est très simple. Le dilemme est le suivant. Est-ce qu'on veut fonctionner dans un dispositif où on ruine la confiance parce que la confiance est suspecte, ou bien au contraire, est-ce qu'il faut courir le risque de la confiance? C'est une bonne question et c'est probablement la question qui se pose à notre société dans les années qui viennent.
Mais le cas,
sur les conventions collectives d'entreprise, il faut bien comprendre que les organisations syndicales, dans la grande majorité des cas, jouent parfaitement leur rôle, qu'elles font bien du bon travail et que les négociations entreprises sont pas mal en moyenne. Mais attention, le droit n'est pas fait pour la moyenne. Le droit est fait pour protéger les situations pathologiques, les situations dans lesquelles ça ne va pas. Et dans certains cas, le déséquilibre est très très grand dans l'entreprise et vous avez des organisations syndicales qui ne peuvent pas ne pas céder à une pression en matière d'emploi. Vous avez parfois des personnes qui négocient et qui ne représentent pas grand-chose puisqu'elles n'ont pas de véritable soutien et qui de ce fait-là se retrouvent à signer des textes qui sont entièrement rédigés par les employeurs. C'est peut-être des cas pathologiques, mais ces cas existent et il faut que dans ces cas-là, on prévoie aussi des minima de protection.
Emmanuel Decaisse, un dernier mot à la Défense. Il faut savoir prévoir tous les aspects particuliers dans la loi ou est-ce qu'il faut laisser un peu plus de place aussi?
Il faut laisser la place. Ça s'appelle la liberté. C'est terrible également. On a l'air d'avoir peur de cela. Et toutes les cas, les déviances que vous citez, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Ça s'appelle un juge. Et il y a toujours du boulot, lui. Il n'y a pas de problème.
Ne me parlez pas de liberté. Je suis un défenseur de la liberté. Bien plus que vous ne défendez pas la liberté.
Liberté
vous
du
défendez
renard dans
l'autoritarisme patronal. Et ça n'a rien à voir avec la liberté.
Ah, voilà. Bon, bah écoutez, finalement, on n'aura pas du tout réussi à vous mettre d'accord. Et voilà, la grande table, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Philippe Baudouin qui était à la réalisation. Merci à toute l'équipe, Henri Leblanc, Jeanne Aléos, Clémence Marie, Augustin Bernard-Rodex qui est venu un peu renforcer l'équipe en l'absence de Caroline Brouet qui reviendra dès lundi prochain, ne vous inquiétez pas. Merci également à notre stagiaire Antoine Sims qui assure tous les jours le site internet de la grande table, un site internet qu'on peut consulter sur franceculture.fr. On peut aussi évidemment réécouter et podcaster l'émission Ad Vitam Aeternam désormais. La grande table continuera évidemment demain et après-demain à se pencher sur cette question de la loi El Khomri. On va prendre un peu de champ, hein, puisque demain on parlera de management, du devenir managérial de nos sociétés en présence de Thibault Le Texier qui a écrit un livre sur le sujet. Et, pardon, excusez-moi, vendredi, c'est le philosophe Marcel Gaucher qui viendra conclure cette semaine.